Père l'abbé Gérard Lafond, bonsoir.
Bonsoir.
Nous aimerions passer en revue ce soir, si possible, faire un genre de rétrospective des deux années où Myrna a eu le plaisir et la joie de venir vous rendre visite à l'abbaye de Visque.
Oui, bien volontaire. Elle a laissé un grand souvenir. Oui.
Durant les étés de 2003 et 2004.
2004, oui, c'est ça.
Il y a eu une Myrna différente en 2003 de 2004, au moins du point de vue phénomène. Mais nous voudrions savoir exactement quelles ont été vos impressions durant ces deux années-là, durant ces deux visites, et si vous avez pu déceler si différence il y a eu entre ces deux visites. Est-ce que vous avez pu déceler quelque chose de différent? Quelles ont été vos impressions durant ces deux visites-là?
Oui. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a une différence. Comme vous venez de le signaler, la première année, nous avons bénéficié de ce charisme de l'émission d'huile, qui a été très, très touchante, très marquante pour la communauté, mais aussi pour les moniales, car les phénomènes s'est produit dans les deux monastères. Et à un moment, toujours, j'ai posé des questions à Myrna pour savoir si elle était préparée à ce phénomène-là, si elle sentait quelque chose venir. Elle m'a dit non, ça se déclenche d'un seul coup. Et alors à ce moment-là, elle entre quand même dans un grand recueillement. C'est ce qui nous a frappé. On sent sa vie intérieure profonde, spécialement à ce moment-là. Et alors là, évidemment, donc, nous avons tous profité de cette huile un peu extraordinaire, parce que c'est une huile qui disparaît, qui s'évapore et qui ne laisse pas de traces de gras ou de choses comme ça, ou de taches.
Est-ce qu'il y a eu une certaine déception que ce phénomène ne se soit pas manifesté en 2004? Et sinon, pourquoi?
Bon, de mon côté et du côté des moines, je ne crois pas du tout qu'il y ait une déception.
Pourquoi?
Pourquoi? D'abord parce qu'on avait été comblé l'année précédente et qu'on comprend très bien que ce ne sont pas des phénomènes automatiques, que c'est purement gratuit de la part de Dieu et que ça ne se produit pas. Bon, ça ne se produit pas, il n'y a pas de question à se poser, je pense, de ce côté-là. Et non, ça, vraiment, je n'ai pas entendu de réaction en disant « Ah, quel dommage, comment ça se fait ?» Alors, je pense que c'est peut-être terminé ce phénomène-là. Et comme a dit Myrna elle-même, ce qui compte, c'est le message, hein, et pourquoi elle est envoyée. Une chose qui nous a aussi frappé, c'est qu'elle a insisté sur le fait que Dieu avait choisi non pas une personne, mais une famille. Elle a dit ça plusieurs fois. Donc le mari orthodoxe et elle qui est catholique, bon, les enfants, bien, je crois qu'ils vivent déjà dans l'unité. Et ça, c'est intéressant. Et il y a aussi, à propos de la famille, elle a dit aussi une chose qui m'a beaucoup plu, à savoir que les familles unies, et les familles qui vraiment prennent les moyens de rester fidèles et ferventes dans la foi, ce sont elles qui entraîneront l'unité de l'Église, de quelque manière. C'est travailler à l'unité de l'Église en commençant par la famille. C'est une idée intéressante, je pense. Bon. Et puis évidemment aussi, ce qui nous a frappé, puisque nous sommes un peu des gens qui vivons dans la liturgie, hein, les moines bénédictins, c'est l'insistance sur la fête de Pâques. Pour cette insistance qui est demandée, que le Seigneur demande que le Pâques soit célébré à la même date par l'Église tout entière, disons, hein, catholique ou orthodoxe. Ça se heurte évidemment à des difficultés, mais qui sont dérisoires, au fond, ce sont des choses. Je pense que dans son témoignage, elle fait comprendre que c'est la même Église. Et puis qu'il y a des circonstances historiques malheureuses, des mauvais souvenirs, et puis des différences quand même de théologie. Mais pour ce qui est de la foi, je pense que c'est très proche.
Mais vous, Père Abbé, en tant que Père Abbé de, n'est-ce pas, du congrégation de bénédictins connus pour leur austérité, disons, et leur sérieux, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a finalement encouragé à inviter Myrna à venir chez vous? Parce que ce n'est pas les visionnaires qui manquent. Alors, qu'est-ce qui aurait singularisé Myrna pour que vous puissiez lui faire cette invitation?
Oui. Bon, évidemment, il y a une part de circonstances, parce qu'on est donc entré en contact avec des gens qui la connaissaient, qui en ont parlé, ça nous a donné le désir de la connaître. Bon, ça s'est fait, l'invitation s'est faite aussi dans le cadre du projet Nouveau Regard, où il y a une recherche là qui est faite sur le, au fond, on peut dire, sur le regard de foi, et qui nous permet de quelque manière de voir l'invisible. Alors il y a des témoins de cette invisibilité, de ce monde invisible, le monde angélique, et qui ont des expériences qui ne sont pas données à tout le monde, mais qui sont quand même typiques. Et nous voulions entendre son témoignage, c'est un peu ça. Et donc plusieurs de nos membres sont, du membre du projet Nouveau Regard, qui sont des scientifiques, sont venus et ont été aussi... non seulement intéressé, mais j'allais dire charmé, parce qu'il y a quelque chose de plus chez elle, je pense, cette grande simplicité dont nous parlions tout à l'heure, cette transparence. C'est le mot qui est venu à plusieurs de la communauté. Cette femme, elle est transparente. Il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas d'attitude préfabriquée, il n'y a même pas un désir de plaire, enfin, naturel. Et puis à la fin, je ne sais pas si vous savez, mais quand elle est partie, c'est la première année, ça. Quand elle nous a quittés, je l'ai reconduit à la voiture avec quelques moines, le père hôtelier et quelques autres, etc. Puis elle a dit quelque chose en arabe au père Zarnaoui, qui a dit oui. Et alors elle s'est précipitée dans nos bras pour nous embrasser. c'est charmant. Mais elle avait demandé la permission, n'est-ce pas, à son père spirituel, pour embrasser des moines.
Et pour revenir au phénomène lui-même, le phénomène des stigmates en particulier, auquel naturellement vous n'avez pas assisté, mais que vous connaissez, qu'est-ce que vous pensez du symbolisme des stigmates en pays d'islam ?
Ah oui, ça c'est une question, je crois que c'est évidemment très important, puisque pour les musulmans, le Christ n'est pas mort sur la croix, hein. Il y a eu un substitut qui a été mis à la place de Jésus, et évidemment c'est au contraire, c'est le fondement de la foi catholique, de penser que le Christ a été crucifié pour nos péchés et qu'il est ressuscité, qu'il est retrouvé. Oui. Alors effectivement, mettre ça sous les yeux, de même, je vais peut-être faire allusion au film sur la passion de Gibson. Il paraît que beaucoup de musulmans l'ont vu et avec passionnément, je vais dire sans changer de mot, ils ont été très intrigués par cette affaire-là, parce que ça pose un problème pour eux, étant donné que ça contredit le Coran. Oui. Et oui, je crois que c'est évidemment un très beau témoignage. Alors, les stigmates eux-mêmes, ils peuvent prendre des formes très différentes. Évidemment, les stigmates de Myrna ne sont pas celles du Padre Pio, par exemple. Padre Pio, il a eu ses stigmates jusqu'à sa mort. Et ils ont disparu au moment de sa mort. Il n'y avait plus rien. Bref, c'est très curieux. Avec Myrna, ça ne dure pas. Puis ça n'a pas le. C'est très fin, quoi. C'est quelque chose de. Bon, mais je n'ai vu ça que par vidéo. J'ai regardé la vidéo qui représente ça. C'est très émouvant. Et puis, c'est surtout aussi le côté de tous les gens qui sont. Enfin, elle n'est pas du tout gênée par tout cet entourage. Enfin, c'est effrayant. La chambre est pleine de gens qui la regardent, qui s'approchent, qui. C'est odieux, d'une certaine manière. C'est odieux. Mais elle prend avec sa simplicité habituelle. Et puis elle a dit aussi que pendant le phénomène se produit, elle est complètement dans un autre monde. Elle ne voit pas tout ça.
Ça veut dire que durant les stigmates, elle n'est pas en extase. C'est quand, n'est-ce pas, c'est le samedi saint lorsque elle reçoit le message du Christ qu'à ce moment-là elle tombe en extase, mais durant les stigmates elle est pleinement consciente de la réalité autour d'elle.
Oui. Mais elle n'a pas l'air d'en souffrir, c'est ça que j'ai admiré, pas tellement. Enfin, est-ce qu'il y a des gestes de un peu d'impatience? Moi j'ai pas vu ça, je comprends.
Elle est d'une réserve incroyable. Oui. Elle souffre en silence. Elle n'est pas le genre à s'extérioriser lorsqu'elle souffre, mais elle nous a dit à plusieurs reprises qu'elle souffre terriblement durant ses stigmates.
Oui, ça,
mais elle est tellement réservée qu'elle donne l'impression qu'elle ne souffre pas, mais en fait, elle en souffre énormément, d'après ce qu'elle nous a dit.
Oui. Oui.
Et pour revenir au message, Père Abbé, si vous aviez à mettre en exergue un message, lequel vous semble le plus important parmi tous les messages de Soufanier, ou disons le plus, pas le plus spectaculaire nécessairement, mais disons celui qui vous a le plus impressionné?
D'abord, je pense aussi qu'il y a une espèce de sobriété qui est... Bon, il n'y a pas de défaut de parole, il y a des choses très simples qui sont proposées là. Et puis, je crois qu'ils vont au fond des choses. Enfin, justement, quand même, le problème de l'unité des chrétiens, c'est primordial. Et là, je crois qu'elle a mis tout à fait l'accent sur cette chose-là. Je n'ai pas en mémoire tous les aspects, enfin, j'avais bien étudié, mais je n'ai pas en mémoire tous les aspects des messages. Mais l'ensemble m'a paru très, très cohérent et très, très convaincant.
Comment vous interpréteriez le dernier message qu'elle a reçu du Christ concernant l'orientalité, n'est-ce pas,
ah oui.
L'orientalité, n'est-ce pas, de ce qu'on devrait être, de garder notre orientalité?
Ah oui, ça, je pense qu'elle a raison, oui. Le Christ, je ne vais pas dire que le Christ a raison, c'est évident, mais... Peut-être est-ce que c'est une réaction contre une attitude de l'Église catholique pendant un temps qui consistait un peu à latiniser tous les chrétiens qui entraient dans l'Église pour eux. Et ça, c'est tout à fait révolu maintenant quand même. Peut-être qu'il y a encore quelques éléments qui sont un peu qui hésitent dans cette voie-là. Mais je pense que, surtout avec Jean-Paul II et puis et maintenant de Benoît XVI, cette affaire-là est tout à fait... C'est clair et net. Parce qu'ils ont beaucoup insisté sur cette fameuse phrase que l'Église doit respirer avec ses deux poumons. Hein. L'Église, c'est-à-dire au fond... c'est déjà comme ça, parce qu'il y a quand même peut-être 40 ans qu'on a publié, par exemple, dans les sources chrétiennes, tous les pères de l'Église d'Orient, qu'on ne connaissait pas, enfin, qu'on connaissait très mal, et que maintenant, je ne dis pas tous les prêtres, mais enfin, et puis beaucoup de laïcs, mais ils connaissent quand même maintenant, ils ont accès à tout ça. Ce qui voulait que ça nous a rapprochés. Mais c'est un fait très intéressant. Il y a un de nos membres, de Pierre Perrier, qui lui s'est un peu spécialisé. C'est un ingénieur et il est membre de l'Académie des sciences. Mais il s'est spécialisé, il a voulu que sa culture religieuse soit au même niveau que sa culture scientifique. Et alors il a appris l'araméen. Et il s'est spécialisé dans l'étude des églises orientales, alors de tout à fait de l'Orient, alors les orientaux proprement dit, si vous voulez, d'Irak, de Mésopotamie, enfin des églises. Donc il était très intéressé par ça, parce qu'il a posé des questions à Myrna, ce sujet-là d'ailleurs.
Ouais. Sur les Assyriens et les Chaldéens.
C'est ça. Oui. Il est en relation avec toutes les. Enfin, pas tous, mais avec pas mal de personnalités. Enfin, des gens qui sont en France souvent, oui, que vous connaissez probablement aussi. Oui. Sœur Youssif.
Mais dans ce même contexte, oui. Comment vous envisagez l'unification de la fête de Pâques, finalement?
Oui, ça, c'est une question de calendrier, hein, tout simplement. C'est ça le problème. C'est qu'il y a eu. C'est pas par opposition, c'est parce que les Grecs, enfin, les Orientaux, ont continué à suivre le calendrier julien. Alors qu'en Occident, il a été réformé au XVIe siècle pour être mis en plus à l'heure du temps des astres. Vous voyez.
Donc, oui, scientifiquement,
il est plus exact. Donc, si vous voulez, donc la date de Pâques calculée avec le calendrier grégorien est plus normale que l'autre. Bon, alors l'argument des orthodoxes, c'est de dire que c'est la tradition. Bon, ils n'ont pas lieu de changer ça. Maintenant, on pourrait. Il y a quelques églises de l'Antiquité qui avaient pour date de Pâques la Pâque juive. Mais alors, ça ne tombe pas le dimanche, ou pas forcément le dimanche. Et donc, il faut que ce soit essentiellement le dimanche de la résurrection, évidemment. Le dimanche le plus proche.
Mais est-ce qu'on ne peut pas dépasser ce symbolisme un peu anachronique parfois pour vraiment transcender. Transcender ces difficultés apparentes et vraiment essayer de trouver une nouvelle formule qui puisse nous permettre de nous unir finalement.
Je pense, oui. Oui. Que c'est pas essentiel, ces affaires-là. Enfin, il y a quand même, bon, depuis le début de l'Église, il y a le souci de retrouver une date à peu près approchante pour célébrer le mystère. C'est comme ça dans toute la liturgie. Hein. On fête les saints le jour de leur mort parce que c'est la rentrée au ciel, etc. Mais on peut déplacer aussi la fête d'un saint, ça se déplace. On est bien obligé dans certains cas. Et donc pour la fête de Pâques, ça, moi je trouve que c'est plus important, comme vous me suggérez d'ailleurs, de rétablir l'unité autour de la fête de Pâques que de maintenir des points de vue astronomiques.
Oui, surtout que chez nous, en pays d'Orient, oui. Cette dichotomie ou cette division de la fête de Pâques est ressentie beaucoup plus intimement qu'en Occident.
Bien entendu.
Et parce que nous avons beaucoup plus d'orthodoxes, de catholiques, et surtout que nous sommes dans une mer musulmane, n'est-ce pas?
Oui.
Donc nous servons de témoins, que nous le voulions ou pas.
Oui.
Et si les témoins que nous sommes sont divisés,
ne s'entendent pas,
vous pouvez vous imaginer que cela n'a pas une influence très positive sur les musulmans.
Sans aucun doute.
Donc pour nous, nous ressentons cette division avec vraiment beaucoup de douleur et beaucoup de chagrin.
Oui.
Et dans ce contexte, vous ne pensez pas qu'il y a une certaine urgence à essayer de trouver une solution pour...
J'en suis persuadé. Mais évidemment, peut-être que l'opinion, si vous, dans la rue, vous interrogez un bon catholique, vous direz ce que ça paraît essentiel qu'on célèbre la Pâque en même temps que les orthodoxes, il vous dira, ça serait bien, enfin, ça ne sera pas plus que ça, probablement, vous voyez. Mais il faut avoir pris conscience de ce que vous dites. Nous avons pris conscience de ça, bien sûr. Mais oui, je crois que c'est vraiment urgent. Vraiment urgent. Et donc, justement, le fait que ce soit demandé par le Seigneur, et puis que Myrna puisse le dire dans ses voyages en Occident, ça c'est très important.
Finalement, Père Abbé, quel serait le message que vous pouvez donner à vos frères des chrétiens d'Orient?
C'est d'essayer d'effacer tout ce qu'il a pu avoir de mauvais souvenirs de l'un et l'autre, et puis éviter aussi tout ce qui peut séparer, tout ce qui peut les écarter les uns des autres en insistant sur des choses qui sont secondaires, en somme. Et que vraiment l'unité, quelque chose qui est demandé par le Seigneur lui-même, d'ailleurs. Je pense, théologiquement, je pense que cette unité, elle existe dans le ciel. Vous comprenez que le Christ n'est pas divisé, lui. Hein. Son corps n'est pas divisé. Hein. Ce sont nos péchés, puis nos insuffisances, tout ce qu'il y a de mesquin dans l'homme, quoi, qui a produit tout ça. Il y a tout un contexte politique, il y a des souvenirs historiques, il y a toutes sortes de choses. Et ça, il faut absolument éliminer. Hein. Mais c'est vrai qu'on rencontre assez souvent chez nos frères de l'Église d'Orient des partis pris aussi, hein, assez forts.
Le fait qu'au cours du XXe siècle, durant les apparitions tant soit de la Vierge que celle du Christ, qu'il y a ce leitmotiv qui revient à chaque fois sur l'unité, sur l'unité, sur l'unité, unissez-vous. Est-ce que vous ne sentez pas que vraiment... il y a un besoin pressant que nous puissions vraiment essayer d'accomplir cette unité dans les plus brefs délais.
Oui. Je pense que ça tient aussi beaucoup, d'ailleurs les papes l'ont dit, dans les rapprochements de personnes, enfin puis d'institutions. Parce que sur le plan des discussions théologiques, ça reste un peu théorique, vous voyez. Bon, il y a des progrès qui sont faits, mais ça passe pas, quoi. Le plus bel exemple, c'est le Concile de Lyon, où il y a eu l'unité proclamée entre les orientaux et les occidentaux. Et puis, ils étaient à peine rentrés chez eux, que les gens n'étaient pas au courant. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ils ne pas devenir catholique quand même. Enfin bon, et ça a avorté complètement. Maintenant, on n'en est pas là, parce qu'il y a quand même, tous les moyens de communication sont tels qu'on peut, on peut moins ignorer l'autre. Voilà. Je crois que c'est un point important. Mais...
Père Abbé, merci beaucoup pour cet entretien.
Merci à vous.
Bien.
Vous savez qu'on a eu du mal à faire dire à Myrna ou ou au père Zahraoui, l'importance symbolique. Il répondait toujours, mais non, c'est une petite maison arabe qui n'a pas de caractère. Je lui dis, mais c'est pas ça qu'on vous demande, qu'est-ce qu'il y a eu dans le lieu? Alors il a fini par nous dire, mais c'est à deux pas d'un sanctuaire qui est dédié à... qui a baptisé Saint Paul pour Anani.
Ah oui, Anani.
Oui. C'est extraordinaire.
C'est certain.
Parce que, et la cécité quand elle a perdu la vue pendant 3 jours. J'avais posé une question à Myrna, si vous voulez. J'ai fait allusion dans le texte que vous avez bien voulu mettre dans votre site.
Oui.
Il est toujours sur le site. Alors, j'ai posé une question parce qu'à un moment donné, elle disait que. Je voulais faire quelle est la différence il y avait entre le mot apparition pour elle et puis
et extase.
Oui, c'est ça.
Et
alors,
vision.
Alors elle me disait dans l'extase, c'est dans l'apparition, c'est la Vierge qui vient à moi, et dans l'extase, c'est moi qui vais vers la Vierge. Et je pense que ça, c'est justement ce souvenir de la première apparition où la Vierge est venue. De l'eucalyptus, je ne me rappelais plus que c'était un eucalyptus, et vers elle, parce que comme ça, elle vient de l'extérieur. Et tandis que l'extase, évidemment, c'est le processus inverse, de quelque manière, oui. Puis ça m'a beaucoup amusé aussi, puis je lui ai parlé des anges, parce que j'aime beaucoup les anges, je crois que c'est important. Et alors, avec sa simplicité habituelle, je lui ai dit, pas du tout. Bon. Alors je lui ai dit, est-ce que vous priez votre ange gardien de temps en temps? Alors elle me répond, on ne peut pas prier quelqu'un qu'on ne connaît pas. Moi je connais Jésus et Marie, mais je ne connais pas mon ange. Alors je lui ai dit, j'ai réussi à lui faire admettre quelque chose là-dessus.
Ah, oui.
C'est qu'elle a été poussée dans le dos, vous vous souvenez de ça?
Oui.
Alors je lui ai dit, mais vous comprenez pas qu'est-ce qui vous a poussé là? Alors après, elle a dit, mais oui, c'est vrai, ça devait être mon ange.
Ça, c'est intéressant.
Dans les messages, souvent, oui. On entend des paroles, n'aie pas peur,
Suis
avec toi, n'aie pas peur.
Ah, oui.
Au moins 6 ou 7 fois.
Ah bon?
Ouais. C'est normal d'avoir si peur après avoir vu Jésus.
C'est normal, oui. Ben, regardez les apparitions de Jésus ressuscité. Je suis en train de faire ça pour mon bouquin, d'ailleurs, je vais travailler là-dessus. Dans Saint Marc, les femmes sont tellement stupéfaites qu'elles oublient de porter le message. Tellement elles sont saisies. Hein. Et puis, l'ange, dans Saint Matthieu, lui dit n'ayez pas peur, ne craignez pas. C'est normal, ça. Dans les théophanies, l'irruption, si vous voulez, du monde surnaturel, c'est quand même impressionnant. Alors, ça produit certainement la crainte révérentielle, enfin, la crainte. Et par exemple, dans l'Ancien Testament, l'apparition aux parents de Samson, le mari dit à sa femme, nous allons sûrement mourir parce que nous avons vu Dieu. Et alors, sa femme, qui est plus astucieuse, lui dit, non, nous n'allons pas mourir, parce que si nous devions mourir, le Seigneur ne nous aurait pas fait donner le message qu'il nous a donné. Ah, c'est très, très beau.
Il n'a pas perdu le nord.
Il n'a pas perdu le nord. Il dit, ah, non, c'est... Mais c'est pour ça, justement, que c'est pas Dieu qui voyait directement. Hein. C'est vrai que pour voir Dieu, ça, c'est une autre affaire. Hein. Et c'était son ange de Yahvé, enfin l'ange de... L'ange du Seigneur.
Oui, c'est pour amortir le choc.
Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Et puis, alors, dans le cas, bon, les apparitions du Christ, alors là, on voit Dieu parce qu'il s'est fait homme. Alors, bon, on peut le voir, mais...
Et cette fois-ci, en 2004,
oui.
Une seule plaie seulement, au lieu des 5.
Ah oui, oui je me rappelle, oui, je me souviens
et
de ça.
Et seulement
oui.
La plaie du
C'était côté. Le cœur, c'est le plus important.
Oui, le cœur.
Ça aussi, c'est un message, évidemment.
Oui, oh, oui c'est oui. Certain. Vous comptez un jour aller à Soufanié, mon père?
Rien n'est impossible à Dieu.
Ah, elle serait ravie, Myrna, de vous y accueillir.
Mais ça, moi, j'ai été touché par son amitié, enfin, parce qu'elle elle a vraiment dit qu'à un moment donné, je vais répéter plusieurs fois, mais c'est j'aime beaucoup cette communauté-là, mais bien aimée. Elle a fait une très belle sur le livre d'or. Hein. Elle a écrit en arabe, une belle écriture, très belle écriture. Et puis ensuite, j'ai dit au père, vous allez traduire ça en dessous, pour quand même.